fidèle au poste. Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Vous écoutez Radio Judaïka et il est 14h. Nous sommes ensemble pour 30 minutes pour un fidèle au poste qui s'intéressera à un film sorti sur les écrans. Nous reviendrons sur les ultimes secrets du père de Tintin, Hergé, et nous remettrons également dans les oreilles, en troisième temps d'émission, la petite musique du film de Fritz Lang, M le maudit. C'est parti pour 30 minutes, et avec la musique qui suit, je sais que vous n'allez pas pouvoir tenir en place.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of mugging around, oh, ooby-doo. I wanna be like you, I wanna walk like you, cheep. Talk like you, cheep. Chew. You'll see it's true. Shoo-bidi-doo. An ape like me,
Scooby-dooby-dooby,
can learn to be human too.
You're part of the deal, cuz. Lay the secret on me of man's red fire.
But I don't know how to make fire.
Now, don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now, give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
Fire. That's what that scoundrel's after. I'll tear him limb from limb. I'll beat him. Yeah. Well, man, what a beat.
Will you stop that silly beat business and listen? This will take brains, not brawn.
You better believe it, and I'm loaded with both.
Will you listen?
Oh, yeah, yeah.
Now, while you create a disturbance, I'll rescue Mowgli. Got that?
I'm gone, man. Solid gone.
Not yet, Baloo!
Hey, there's up on Roni. Up to be beloved up on Roni. And I'm a bit to sabadoo the day, to bomb the boog the days, the bones of a bababy.
Abadoo dee!
Will a reap a naza?
Ebadabadoy!
Will a la bazini?
Walla but, woodla but,
steeple that doody!
Ooh, 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 ooh!
La ha 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 ha! Get mad, baby!
I wanna be like you.
I wanna walk like you. Talk like you. Do woo woo. You see it's true. Someone like me
can learn to be like someone like me.
Take me home, daddy. Can learn to be like someone like you.
One more time.
Like someone like me. See, did a bop bop bada doodle dat 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 dat.
La recommandation du jour.
Sorti depuis quelques jours sur les écrans, The Brutalist, un film incroyable que nous voulions vous recommander. C'est l'histoire sur près de 30 ans d'un architecte juif né en Hongrie, Laszlo Tosz, qui, revenu d'un camp de concentration, émigre avec sa femme à la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pour connaître son rêve américain.
Mais The Brutalist est loin de figurer seulement le parcours d'un architecte formé au Bauhaus, reparti de zéro avant d'être repéré pour son talent. C'est avant tout une œuvre qui déconstruit ces États-Unis triomphants de l'après-guerre, terre d'accueil et d'entrepreneuriat, qui voulait se valoriser face à la sauvagerie d'une Europe déliquescente. Et même si le film fait plus de 3 heures, vous ne les voyez pas passer, et il vaut vraiment, ne serait-ce que pour l'interprétation d'Adrien Brody.
Cousin.
Erzsébet est en vie.
Quoi ?
C'est de vous,
n'est-ce pas ?
Oui.
Tous ?
Oui.
Pourquoi un architecte étranger, reconnu par ses pairs, se retrouve-t-il à pelleter du charbon à Philadelphie ?
Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Il y a eu une guerre, et pourtant, la plupart de mes projets ont survécu. Mais mes bâtiments ont été conçus pour résister à l'érosion des rives du Danube.
Je vous ai fait venir ici ce soir pour que nous tournions notre regard vers l'avenir.
Qu'est-ce que tu en dis ?
C'est inhabituel, même pour toi.
Vous parlez parfaitement notre langue. Dans ce cas, pourriez-vous aider votre mari à se débarrasser de son accent de cireur de chaussures ? Pardon, pouvez-vous me rendre ma pièce, s'il vous plaît ?
On n'est pas les bienvenus ici.
Tu parles de qui alors ?
Des habitants de ce pays. Ils ne veulent pas de nous ici.
Quand un chien tombe malade, il arrive souvent qu'il morde la main qui le nourrit. Jusqu'à ce qu'il soit abattu par une bonne âme qui aura eu pitié de lui.
Le trombone est un monsieur, ni jeune ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. La guitare est une fille qui traîne sa drôle de vie dans les boîtes à whisky. Le piano est un gaillard qui bringue avec les noirs et dort avec Mozart. Le triangle est un lutin, mais seuls quelques malins croient qu'il ne sert à rien. Ils sont bien 30 ou 80 qui s'amusent bien tous les soirs avec tous leurs copains, leurs cousins germains. Ils s'entendent mieux que tous les larrons en foire. Le banjo est un bon gros qu'a du cœur au boulot et ça lui donne chaud. Le tuba fait ce qu'il peut, il swingue de son mieux, mais ça l'essouffle un peu. Le violon est si léger que d'un seul coup d'archet, il se met à voler. L'orgue est encore le plus sage, depuis son plus jeune âge, il pense au mariage. Mes amis, pour une belle famille, c'est une belle famille. Croyez-moi, et que Monsieur Gershwin tourne la machine, que Marnet turbine, et ça les contamine. Le trombone est un monsieur, ni jeune ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. Padop badap, going going go going, padop badop, digi ding digi ding, brup de, wapatapatadap.
Le trombone et la guitare, la flûte et le piano, le cor et le banjo. Le trombone et la guitare, le sax et la batterie, et toute la compagnie.
Trombone, guitare et compagnie, c'était bien sûr Michel Legrand.
La recommandation du jour.
Vous connaissez, j'en suis sûr, les aventures de Tintin. Mais savez-vous qui a inspiré les personnages du Capitaine Haddock, de Rackham le Rouge ou de Nestor, les épisodes du Temple du Soleil ou encore les pastilles explosives de l'album L'Or Noir? Eh bien, toutes ces révélations, et bien plus encore, se trouvent dans un livre ultra documenté sorti récemment de Bob Garcia, Hergé, Les Ultimes Secrets aux éditions Le Rocher. L'auteur s'est penché sur la totalité des magazines auxquels Hergé collaborait et à la lumière des rubriques et des articles parus dans Le Petit Vingtième, Le Soir Jeunesse ou Le Journal de Tintin, environ 80 000 pages quand même, il relie toutes les aventures de Tintin, depuis Tintin chez les Soviets jusqu'au Picaros, et révèle les sources qui ont inspiré le dessinateur. Bob Garcia.
Bizarrement, personne n'a pensé ou n'a eu le temps ou n'a eu l'occasion d'aller puiser dans Le Petit Vingtième. Donc, c'était le supplément jeunesse du XXe siècle dans lequel Hergé prépubliait ses bandes dessinées. Et là-dedans, dans Le Petit Vingtième, en dehors des bandes dessinées d'Hergé qui finalement ne prennent que 2 pages, hein, tout le reste, c'est du rédactionnel. Il y a le mot de l'oncle Joe qui est une sorte d'éditorial. Il y a des contes d'autres auteurs. Il y a une rubrique sur l'actualité. C'est celle qui m'a intéressé le plus parce que là, ils ont assisté à la montée du nazisme dans toutes les années 30 jusqu'en 39. Toutes ces rubriques-là sont une mine d'or, une mine d'informations pour savoir ce qu'ils écrivaient à chaud au moment de l'actualité, ce qu'ils pensaient, comment ils décrivaient l'actualité. Et j'ai découvert ça, bon voilà, mon grand étonnement, je suis un petit peu tombé sur l'océan pour rester poli de ce que j'ai découvert, quoi. Il devait avoir le dos mur, ce gars-là, parce qu'il y a des moments où il produisait 2 pages de Tintin, 2 pages de Cuic et Flup en même temps, et aussi en parallèle encore Josette et Joko. Alors donc, il devait être complètement le dos au mur à absolument devoir trouver des gags, trouver des idées, alimenter ses récits, etc. Donc, il piochait dans ce qu'il avait le plus proche de lui, c'est-à-dire effectivement Le Petit Vingtième. Et comme ça, il a fait des emprunts à des faits d'actualité, à des morceaux de récits de ses collègues, etc. Et il a remis tout ça dans son œuvre de façon tout à fait géniale, il faut bien le reconnaître. Mais enfin, il a quand même il a puisé énormément dans cette base de données qu'il avait sous le coude, je dirais.
Outre une relecture passionnante des albums, ses recherches dans les archives permettent à Bob Garcia d'en savoir plus sur les opinions d'Hergé sur de nombreux sujets comme la guerre, le racisme, l'antisémitisme, la religion, les femmes, etc. Soucieux de contextualiser les intrigues, les personnages, les scénarii, l'ouvrage met en perspective ce qui était dans l'air du temps dans les années 30-40 et qui, revu aujourd'hui, paraît raciste ou sexiste, et ce qui est de l'attitude et de l'opinion même du créateur de Tintin.
J'ai été vraiment le premier étonné, en compulsant tous ces petits vingtièmes, de voir le nombre de gags d'humour juif qui étaient dans ces pages-là. J'en ai épluché, répertorié au moins 50 ou 60. J'ai pas tout mis dans mon bouquin, bien entendu. J'ai épluché tout ça, puis je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas d'antisémitisme profond chez Hergé, ni chez ses collaborateurs. Mais, d'un autre côté, il y a ce côté le juif, l'image du juif richissime, banquier juif si possible américain bien entendu, qui tire les ficelles de l'économie, qui met l'économie par terre, etc. C'est une légende évidemment, mais enfin c'est ce qu'il pense aussi. Donc, vous voyez, il y a une espèce de paradoxe dans ces pages-là. D'un côté, prendre la défense du faible, toujours, qu'il soit juif ou pas, mais en même temps, être contre le riche, le puissant, enfin, supposé riche, supposé puissant, qui va faire du tort au plus faible. C'est un petit peu ça qui ressort de la lecture que j'ai fait. Mais un antisémitisme profond, vraiment viscéral, je l'ai pas ressenti du tout en lisant ces pages.
Et si, comme l'affirme Bob Garcia, Hergé n'était pas raciste ou antisémite, comment expliquer alors qu'il a collaboré avec le journal Le Soir aux mains de l'occupant allemand ?
Hergé a été opportuniste et il a dit « oui, bon, bah, ok, je vais continuer à faire ça comme ça ». Est-ce qu'il a été convaincu par les idées qui étaient prônées dans le Soir ? J'en suis pas très sûr. Donc Hergé a fait ce choix, pas par conviction, mais par opportunisme. Et quand il a compris que ça tournait vraiment mal pour les Juifs en Belgique, bah là, il a mis la tête dans le sable, comme l'autruche, et il a été faible, faut bien le dire, un peu lâche. Et il l'a dit lui-même, il l'a avoué lui-même après coup.
En tout cas, s'il y a déjà de beaux et de bons ouvrages sur la documentation d'Hergé, le livre d'aujourd'hui va manifestement beaucoup plus loin, révélant combien l'auteur de Tintin était une véritable éponge, s'imprégnant de son époque et de son milieu. Un livre passionnant qui permettra à chaque lecteur de se faire sa propre opinion sur les critiques qui existent encore sur l'œuvre d'Hergé. Je vous redonne les références du livre de Bob Garcia, Hergé, les ultimes secrets, aux éditions Le Rocher.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Allez, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas entendus, Alain Souchon et Laurent Voulzy. Comme le dit la chanson, avec du soleil en plus, on aurait, comme Laurent, un joli teint café au lait.
Oh, elles aiment le soleil d'or. On serait tous un peu frais, le soleil d'or. Le soleil d'or. De l'or intelligent, le soleil d'or. Même couleur aux gens, même couleur aux gens, gentiment.
Anecdote ciné du jour.
La petite anecdote cinématographique du jour concerne aujourd'hui M. le Maudit, un film allemand de 1931 réalisé par l'immense Fritz Lang. Il s'agit du premier long métrage parlant du réalisateur, notamment inspiré par l'affaire Peter Krusker, qui montre les habitants d'une grande ville allemande jetés dans la terreur et l'hystérie par un meurtrier d'enfants, de sorte que la police et la pègre se mettent les uns et les autres à sa poursuite. Un plaidoyer nuancé contre la peine de mort, un chef-d'œuvre du cinéma allemand, innovant profondément par rapport à l'expressionnisme et en pleine montée du nazisme, une interrogation dérangeante sur l'aspect criminel de la société, l'irresponsabilité des fous, l'identité de l'assassin et de la victime qui habite l'homme. Ce film est considéré comme l'un des meilleurs films allemands jamais réalisés, avec un personnage principal interprété de façon incroyable par l'acteur Peter Lorre qui joue l'assassin. Pour ceux qui se souviennent du film, ça n'est pas Peter Lorre qui siffle l'air de « Dans l'antre de la montagne », mais le réalisateur Fritz Lang lui-même.
Thank you.
Termine notre émission du jour. Je vous donne rendez-vous demain à 14h pour l'ultime émission de la semaine. Nous nous pencherons sur l'histoire du titre des Beatles, Lady Madonna. Nous feuilleterons ensemble un album de BD complètement dingue, Blood of the Virgin. Et enfin, nous jouerons au Monopoly à Jérusalem. D'ici là, passez du bon temps et je vous laisse découvrir la suite des programmes de votre après-midi.